Radio Canu, la plus rebelle des radios. Caesar, hear me, the merchant of Venice, getting to your CV. As for me, all's well that ends well. Your boy is like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know what's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. That boy, your caller, I do it as you like. You much ado about nothing, what you do is fight. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history's just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as a winter tail, tight as a Jonicus was bound.
Bonjour. Bonjour. Ça marche ou pas? J'ai du mal à m'entendre.
Ouais, ben moi aussi, on pourrait dire.
Bonsoir. Alors, est-ce qu'en technique ça marche?
Non.
Eh ben, on pourrait remettre le générique. Alors, appuie sur le bouton stop et puis le bouton play.
Ah! Alors, on ne s'entend pas, mais visiblement, le son doit passer d'une manière ou d'une autre. On va quand même essayer. Et...
Alors, tu pourrais relancer un bout du jingle, s'il te plaît. Alors, on me fait signe en technique, il y a un souci. Alors, nous sommes le mercredi 9 octobre 2015. C'est l'heure du Canu Info et il est 19h. Passé dans 10 secondes, 5 minutes. Alors, ce soir...
D'étranges problèmes en studio, mais ça passe à la radio. Alors, tant pis, on va continuer comme ça.
C'est joie de Radio Canu.
Avec ce soir, en Afghanistan, des bavures de guerre. Des grèves en tout genre. Et puis après, on passera à des brèves de l'islamophobie. Une lobotomisation pacifique à Mulhouse. 4 baqueux qui sont en garde à vue à Lyon. Libéralisme toujours plus haut, toujours plus fort, contre l'austérité. Et puis, on aura un petit « il faut que ça se sache » avec des nouvelles de Calaisie.
Oh là là, la technique ne fait pas du tout de petite musique. C'est pas du tout entraînant pour...
On dirait qu'il n'y a plus de petite musique. Attends, une petite seconde qu'on vérifie. Hein. Non, il n'y a plus de petite musique.
Oh, mais j'ai envie de boycotter alors. Pas de Canu Info sans petite musique, mais si, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui se passe en Afghanistan? Ah, bah alors, lance-nous la petite musique au moins. C'est la deuxième. Bref, alors, le chef de la mission de l'OTAN en Afghanistan a enfin endossé la responsabilité du bombardement de l'hôpital de Kunduz qui avait eu lieu le 3 octobre, dont vous avez sûrement entendu parler, et qui avait coûté la vie de 22 personnes. Un hôpital a été touché par erreur, donc c'est ce qu'il a déclaré hier le 6 octobre, le général John Campbell devant la commission des forces armées du Sénat aux États-Unis. Le commandant des forces américaines et alliées en Afghanistan a indiqué que l'armée américaine portait la responsabilité des frappes qui ont atteint cet hôpital de Médecins Sans Frontières à Kunduz, dans le nord du pays, le 3 octobre. L'ONG a parlé d'un acte délibéré et donc d'un possible crime de guerre. Mais les responsables n'ont pas indiqué si les forces américaines avaient enfreint leurs propres règles sur le combat en Afghanistan, qui autorisent l'usage de la force aérienne dans 3 situations, donc opération antiterroriste, autodéfense ou protection des forces afghanes en dernière extrémité. Donc voilà, John Campbell a parlé, mais il n'a pas du tout dit beaucoup plus que ce qu'on savait déjà. Et le premier communiqué du Pentagone avait utilisé les termes suivants de possibles dommages collatéraux. Donc c'est plutôt normal que du coup le Médecins Sans Frontières soit vraiment vraiment en colère contre l'armée américaine et le général Campbell. Donc lui, il a indiqué qu'une enquête du Pentagone était en cours. Mais des responsables de MSF ont émis des doutes sur la capacité de l'armée américaine à conduire une enquête satisfaisante sur ses propres actions. Et la présidente de MSF International a fait savoir que l'incident ne peut pas être balayé comme une simple erreur. Elle reprenait les termes... voilà. Et il a également annoncé Campbell, parce qu'il part pas, il perd pas le nord, de retarder le départ de l'armée du pays. Donc, il a estimé que le plan de retrait des troupes américaines d'Afghanistan devrait être revu, étant donné les conditions de sécurité sur la place et la prise de Kunduz par les talibans depuis le 28 septembre. Donc Washington prévoyait jusqu'ici à ramener à 1000 hommes le contingent américain en Afghanistan fin 2016, contre 9800 aujourd'hui. Et Barack Obama avait en effet promis de mettre fin à cette guerre pendant son mandat, mais le président envisage aujourd'hui de laisser 5000 hommes sur place après 2016. Donc c'est toujours plutôt facile de se lancer en guerre et beaucoup plus dur de partir des pays occupés.
Alors, demain, toute une palanquée de syndicats, avec en particulier la CGT, Solidaire, FSU, et puis des syndicats étudiants, l'UNEF et l'UNL, donc lycéens aussi, appellent à la mobilisation pour défendre les emplois et les salaires et obtenir notamment une amélioration des conditions de travail, une meilleure protection sociale qui sont mis à mal par la politique du gouvernement. Pardon, des revendications que les salariés, les retraités, les étudiants porteront demain lors d'une manifestation organisée pour ce qui est de Lyon à 10h30 jeudi au départ des Breteaux dans le 6e arrondissement. Alors par exemple à Lyon, la 70 des 125 cantines scolaires de la ville seront fermées, faute de personnel suffisant. Les parents ont théoriquement été informés depuis une semaine, et en tout cas la liste des écoles concernées est disponible sur le site internet de la mairie de Lyon. Voilà, ça c'est... Mais alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un paquet d'autres grèves différentes. Alors non, pardon, on va continuer sur les grèves de demain avec à la SNCF, les cheminots de la CGT Cheminots et de Sudrail qui appellent les salariés de la SNCF à cesser le travail demain. L'objectif est de participer à la journée de mobilisation dont on vient de parler. Et une journée d'action... Pardon.
T'es pas du tout dedans. Allez, non, vas-y.
Donc le préavis court à partir de demain matin à partir de aujourd'hui à 19h et jusqu'à vendredi matin à 8h. Le 8 octobre, préparons la riposte pour annuler les réformes des retraites, du travail et du système ferroviaire. C'est ce que dit Sudrail dans son tract. Il déplore aussi le gel des salaires, la réorganisation et la mobilité contrainte et des conditions de travail globalement dégradées. Le syndicat appelle également les cheminots à se mobiliser pour défendre leurs conditions de travail et leur statut. « Ne laissons pas brader notre réglementation et notre statut », écrit le syndicat, alors que les partenaires sociaux de la branche chargés d'élaborer la future convention collective commune au public et au privé doivent s'attaquer début 2016 à la question du temps de travail. Cette question doit également faire l'objet d'une négociation au sein de la SNCF en vue d'un nouvel accord. Les deux syndicats n'avaient plus déposé, donc CGT Cheminots et Sudrail, n'avaient plus déposé de préavis ensemble depuis la grève de 12 jours menée en juin 2014 contre le projet de réforme ferroviaire lors de son vote à l'Assemblée nationale. Alors, il faut aussi savoir qu'à Paris, les éboueurs sont en grève depuis lundi déjà. Les poubelles commencent à s'accumuler dans la rue de la moitié des arrondissements de la capitale. La grève a été reconduite aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était... Alors, ça, c'est des chiffres que... On n'a que les chiffres de la mairie de Paris qui dit qu'aujourd'hui, il y avait 30% des 4 900 agents chargés de la propreté qui ont suivi l'appel de la CGT. Donc si la mairie dit 30%, ça veut dire que c'est sans doute aux alentours de 60%. Et puis, alors ils étaient plus nombreux lundi, ils étaient un petit peu moins nombreux hier et encore un petit peu moins nombreux aujourd'hui. Bon, toujours selon les chiffres de la mairie. Lundi, la collecte n'avait pas du tout été effectuée dans 5 arrondissements et avait été perturbée dans 5 autres arrondissements. 4 déchetteries avaient aussi été bloquées dans la journée par 400 grévistes quand même. Les syndicats CGT du nettoiement des égouts et des conducteurs de benne ont été reçus aujourd'hui par la mairie pour l'ouverture de négociations sur leurs revendications. La CGT a appelé à une manifestation demain à 14h. Et enfin, là, c'est plus vraiment une grève qui court encore, mais c'est un peu sur le même front. Air France pense avoir identifié les salariés impliqués dans les fameuses violences contre la direction. Alors ça, bon, tout le monde en a entendu parler, hein, les cadres qui se sont fait lyncher, c'est-à-dire arracher leur chemise, pendant une réunion lundi. Donc l'enquête interne ouverte par Air France sur les violences qui ont interrompu lundi dernier un comité central d'entreprise consacré au plan de restructuration commence à donner quelques résultats. L'examen des images, puisque ça a été abondamment filmé, a permis d'identifier une vingtaine de salariés d'Air France, dont une dizaine qui ont un mandat syndical, FO ou CGT essentiellement. C'est ce qui a été annoncé par la direction à l'AFP. Une dizaine de personnes seulement seraient coupables dans les bousculades et les violences. Mais la question reste, a-t-on identifié les personnes qui sont coupables des 3000 suppressions d'emplois qui sont prévues ?
Et alors, il y a une campagne, c'est une petite brève, une campagne de communication qui a été lancée aujourd'hui, une série de 4 spots télévisés et diffusés à la télé et sur Internet pour sensibiliser l'opinion sur le départ des jeunes Français partis faire le djihad en Syrie. Donc des vidéos dans lesquelles 4 familles concernées témoignent. Voilà. Et une autre brève de l'islamophobie quotidienne en France, la lobotomisation pacifique à Mulhouse. Donc, c'est le tribunal de grande instance de Mulhouse qui a mis en place un programme test de déradicalisation depuis le mois de septembre destiné aux personnes poursuivies pour des infractions liées à l'islam radical, une mesure qui pourrait être ensuite étendue à un territoire plus large. Donc, en quoi consiste ce programme ? C'est faire en sorte que donc la radicalisation de certains ne dégénère pas un jour en passage à l'acte terroriste. Donc, le programme est d'une durée comprise en moyenne entre 2 et 3 mois. La prise en charge est faite par une équipe pluridisciplinaire de psychologues, d'éducateurs spécialisés, de travailleurs sociaux. Et par contre, alors voilà, il couvre un large panel de délits et de crimes dès lors que l'infraction commise relève une dérive radicale du suspect. Mais attention, qu'est-ce qu'ils attendent par là ? C'est donc apologie du terrorisme, provocation publique à la haine ou diffamation, abus de faiblesse, soustraction de mineurs, non représentation d'enfants. Donc c'est assez large quand même. Les actes terroristes n'entrent pas dans le champ du dispositif puisque traités exclusivement par le parquet de Paris. Et le choix de Mulhouse et donc de l'Alsace n'est pas un hasard puisqu'il s'agirait d'une des régions les plus touchées par le phénomène djihadiste. Ça c'est entre guillemets puisque c'est le procureur général de Colmar qui a expliqué ça.
Ce matin, 4 flics de la BAC ont été placés en garde à vue par l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, donc la police des polices. La garde à vue devrait durer 48 heures.
C'est non, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas si courant. C'est très très rare que des flics soient...
Alors en fait, ces flics sont suspectés de faux et usage de faux dans le cadre d'une enquête préliminaire qui avait été ouverte par le parquet de Lyon. Et 2 d'entre eux sont soupçonnés en outre de violence en réunion. L'histoire remonte à mai dernier. Il y avait un groupe de gens qui étaient bourrés, qui étaient sur les quais du Rhône au niveau du 3e arrondissement et qui s'amusaient avec une nacelle d'un engin de BTP. Les flics passent, interviennent, donc la BAC, ils interpellent un gars. Le gars passe en comparution immédiate, il est condamné à de la prison avec sursis. Il ne conteste pas les violences. indique une source judiciaire, mais cet homme dit qu'il les a commises en réaction. Plusieurs personnes présentes lors de ce contrôle font état de coups de pied et de coups de poing de la part des deux policiers. Une version qui est très différente de celle qui avait été donnée par les policiers dans leur procès-verbal. Les procès-verbaux dressés par l'équipage de la BAC ne coïncident donc pas du tout avec les déclarations de l'individu interpellé et de ses amis. Mais surtout, les images de la vidéosurveillance de la ville infirmeraient la version policière, celle qui a été écrite sur le PV, donc sur le procès-verbal, et rendrait du coup illégitime l'usage de la violence chez les flics dans un premier cas, d'une part, mais alors d'autre part, et beaucoup plus important, les fonctionnaires de la BAC ont-ils falsifié des PV et menti à leur hiérarchie pour couvrir une affaire de violence en réunion? La question est posée comme ça par Lyon Mag, qui a été le premier à sortir l'info. Il est déjà difficile de juger des affaires où tout ce qu'on a, c'est la parole des policiers contre celle des suspects. C'est ce que nous dit une source proche du dossier, donc quelqu'un qui ne veut pas dire qui il est. Et dans ces cas-là, c'est toujours la parole policière qui l'emporte. Donc, en l'occurrence, on ne peut pas avoir le moindre doute. Il faut qu'on aille au bout de ce dossier et qu'on investigue pour éliminer tout doute. Pour l'heure, nous précise toujours Lyon Mag, il convient de rester prudent quant à l'issue de la procédure. D'autant plus qu'on a déjà vu dans une affaire de violence policière présumée sur le pont de la Guillotière, c'était après un match de Coupe du Monde en 2014, où l'Algérie jouait et du coup les flics étaient intervenus contre les supporters de l'Algérie. On a déjà vu à cette occasion-là une vidéo postée sur YouTube qui semblait accabler un policier. Donc on voyait un flic en train de bastonner un gars sur le pont, avant que l'enquête ne mette définitivement hors de cause le fonctionnaire incriminé. Autant dire, en gros, qu'une preuve vidéo, c'est pas du tout suffisant pour donner tort à des flics. En fait, que les flics cognent un petit peu des gens qui sont en train d'interpeller, bon, c'est classique, c'est, disons, tacitement accepté. Mais, d'une part, la plupart du temps, dans ces cas-là, on se rend compte que les images de vidéosurveillance ne sont bizarrement pas exploitables. Donc là, quand on parle de l'histoire du pont de la Guillotière, c'était un truc qui était filmé par un témoin de la scène. Là, en l'occurrence, c'est vraiment une image de vidéosurveillance de la ville. Et, chose extraordinaire, on a retrouvé cette image-là. Vraiment, d'habitude, quand quelqu'un dit que les flics lui ont tapé dessus, il se trouve que la caméra qui était à côté était en panne à ce moment-là. C'est à peu près systématique. Ce coup-ci, on ne sait pas pourquoi, certainement un petit manque d'efficacité des gens qui s'occupent de ça. En tout cas, les images ont été passées à l'IGPN, qui a pu les regarder et qui a pu en tirer des conclusions. Et d'autre part, cette fois, l'IGPN part surtout sur l'accusation de faux et usage de faux. Et alors, figurez-vous que le faux et l'usage de faux commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, eh ben ça, c'est passible de la cour d'assises et c'est puni en théorie de 15 ans de réclusion et de 225 000 euros d'amende. Bon, ça, bien sûr, c'est les peines maximales, c'est jamais celles qui sont prononcées, mais enfin, c'est pour dire qu'on rigole pas quand même.
Oui, mais ils vont surtout avoir un petit arrêt maladie prolongé. Et puis,
on ne sait pas encore ce qu'ils vont avoir. En réalité, on ne sait pas encore du tout, parce que là, quand même, ça a l'air de... Ça a l'air d'avoir sa petite importance médiatique, et puis ça a l'air d'être dans un moment où on se rend compte, où ça arrive un petit peu aussi chez les magistrats, ce truc où il y a un contexte où des détenus crient régulièrement à la manipulation de la procédure lors de leur passage devant la justice lyonnaise en particulier, et accusent la police d'avoir fait des faux et usage de faux dans leur dossier. Voilà, on n'est sûr de rien, mais en tout cas, affaire à suivre.
Alors, libéralisme toujours plus haut, toujours plus fort. Donc, les États-Unis et 11 pays ont signé l'accord sur le traité transpacifique. S'il est ratifié par les parlements, ce texte accouchera de la plus vaste zone de libre-échange mondial. Une invitation des libéraux à accélérer les négociations avec l'Europe dans le cadre du traité transatlantique. Donc, c'est le 5 octobre à Atlanta, les États-Unis, le Japon et 10 pays du Pacifique, dont le Canada, l'Australie et le Mexique, ont conclu donc ce plus grand accord commercial régional. C'est rigolo, il parle toujours de régional, c'est du méga régional, voilà. Et du coup, c'est quand même le plus important accord commercial de l'histoire économique. Donc, ce fameux TPP, l'accord de partenariat transpacifique. Donc c'est après 10 ans d'intenses négociations. L'ampleur de cet accord est tout simplement immense, non seulement en raison du poids économique de ses signataires, avec 40% du produit intérieur brut mondial et un tiers du commerce, mais aussi parce qu'il recouvre un nombre sans précédent de domaines, des droits de douane, de la propriété intellectuelle, en passant par les investissements, les services et les droits de l'homme et de l'environnement. Donc ça a l'air assez gigantesque. Conçu donc par les États-Unis comme une nouvelle arme commerciale contre la soi-disante menace chinoise, le TTP est clairement annoncé comme le premier accord d'une nouvelle génération de traités fixant les normes pour le commerce mondial au bénéfice des États-Unis. Donc après l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, vous vous rappelez, dans les années 90, les États-Unis sont une fois de plus à l'origine de la définition des règles du jeu du commerce mondial, avec le soutien de grandes démocraties qu'ils ont été en mesure de convaincre sur la base d'une approche renouvelée intégrant, soi-disant, quelques demandes pressantes de la société civile en termes de protection du travail et de l'environnement. Donc il doit y avoir 2-3 petits trucs au hasard. Et avec plus de 3000 accords d'investissement internationaux et près de 600 accords de libre-échange, la production de normes économiques pour l'intégration mondiale et régionale a en effet atteint un nouveau stade. C'est que ça devient du méga, quoi. Et donc, ce qui en découle, qu'est-ce qui en découle ? Ben, c'est les liens de transatlantique par rapport au transpacifique, parce que tout le monde veut rapplique, quoi. Donc, c'est une myriade d'accords méga régionaux de commerce et d'investissement qui sont en cours de négociation entre l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et le Partenariat Transatlantique pour le commerce et l'investissement. Et donc le partenariat économique global régional, ou encore l'accord récemment conclu entre le Canada et l'Europe. Ces initiatives mettent à mal la nature même de la réglementation comme un attribut de l'État. Vous voyez, il y a dans l'économie, en économie vaguement et très schématiquement, on peut dire il y a des keynésianistes qui sont pour un État fort pour réguler. Et là, ces espèces d'accords transatlantiques, transpacifiques, mondiaux, etc., viennent complètement mettre à mal un État, puisqu'il n'y a plus besoin de légiférer au niveau étatique. Voilà. Et donc, la bataille des règles commerciales n'est pourtant pas encore terminée, puisque quand même, cette initiative américaine souffre d'un grand manque et de quoi ? De transparence. Et donc, ce qui ramène à la légitimité quand même. Parce que ce texte négocié du TPP n'a pas été rendu public. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y a peut-être, il y a soi-disant des protections du travail dedans. Mais parce que les parties à la négociation étaient invitées à traiter tous les documents comme confidentiels pendant encore 4 ans. Donc, ils font un accord, mais ils refusent de le rendre public. Et voilà. Donc c'est pas quand même que simple pour que cet accord passe et qu'il soit, on va dire, apprécié. Et alors, une grosse manif aujourd'hui contre l'austérité à Bruxelles. Donc il y avait une grande affiche pour annoncer cette manif où il y avait écrit en gros « rien que des miettes ». Donc c'est des dizaines de milliers de manifestants qui ont défilé dans les rues de Bruxelles, aujourd'hui donc, contre les mesures d'austérité du gouvernement libéral du Premier ministre Charles Michel. Donc le Front commun syndical, organisateur de la marche, annonce que 100 000 personnes manifestaient ce mercredi dans le centre de la capitale européenne, un des plus importants défilés de ces dernières années en Belgique, et donc la police déclarait 80 000 personnes. Donc l'année dernière, le 6 novembre 2014, il y avait une autre manifestation monstre qui avait rassemblé aussi plus de 100 000 personnes. Et à Bruxelles, pareil, pour les mêmes choses, contre les mesures d'austérité du nouveau gouvernement de droite. Donc tout ça, c'est quand même des mobilisations sociales historiques en Belgique, et c'est pour ça que c'est important quand même d'en parler, qu'il y a des gens contre l'austérité un peu partout en Europe qui se bougent pas mal. Et donc, pour revenir un peu plus dans les détails de cette manif, c'est que les dockers étaient en nombre et pas mal déterminés. Ils ont été empêchés de partir en manif sauvage vers des rues commerçantes et en fin de cortège et de manifestation aux alentours de la gare de Bruxelles Midi. Il y avait environ 200 manifestants qui se sont battus avec les flics et balancés de la caillasse à la flicaille. Au moins un membre des forces de l'ordre a été blessé à la tête et trois personnes auraient été arrêtées.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des limites par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info, contre la machine.
Contre la machine à expulsion. Donc ce vendredi-là, qui était le 2 octobre, il y avait Bernard Cazeneuve qui a rencontré les représentants nationaux des ONG engagés auprès des personnes migrantes. Suite à cela, et face à l'attitude des autorités, le mouvement Emmaüs, qui est quand même gros en France, le mouvement Emmaüs a décidé de rompre tout dialogue avec le gouvernement au nom de l'ensemble donc du mouvement Emmaüs. Donc c'est pas rien. Et alors j'ai barré son nom sur mon papier, je n'arrive plus à le relire, mais je vais vous lire un peu un bout du communiqué du président actuel de Emmaüs pour montrer un peu leur détermination. Donc le gouvernement se refuse à prendre des décisions qui seules seront de nature à apporter dignité et respect des droits fondamentaux aux 3000 personnes actuelles bloquées à Calais dans des conditions insupportables et honteuses pour notre République. Donc les acteurs du mouvement Emmaüs, en particulier les communautés du Nord-Pas-de-Calais, sont tous les jours aux côtés des migrants pour leur apporter aide et soutien. Dans le même temps, avec nos partenaires associatifs, nous avons eu de cesse d'alerter et d'interpeller les autorités sur le décalage abyssal entre l'indécence des moyens mis sur la table et ce qu'appelle la réalité de la situation. Le plus choquant est d'entendre les représentants du gouvernement se féliciter de la création du centre Jules Ferry, le bidonville d'État, quand on sait qu'il n'abrite qu'un nombre infime de femmes et d'enfants, laissant des milliers de personnes dormir dehors, sauvagement encampées. Non, Jules Ferry, oui, c'est un vrai centre, mais il est en banlieue calaisienne de Calais. Une catastrophe à grande échelle s'annonce à Calais dans les jours qui viennent, à l'approche de l'hiver. Notre priorité reste le combat politique pour l'ouverture des frontières avec l'Angleterre et la renégociation des accords du Touquet. Nous condamnons la position encore fermement exprimée par le ministre lors de cette réunion qui persiste à écarter cette solution sous couvert de la théorie infondée de l'appel d'air. Nous déplorons qu'un accueil digne qui apporte un minimum toit, vivre, soins et accompagnement social se négocie petitement avec des bouts de chandelle. Nous refusons toujours de trier parmi ceux qui souffrent, périssent et meurent de faim. Emmaüs entre définitivement en guerre, et oui, je relis, définitivement en guerre contre cette politique punitive, criminelle et destructrice. Nous ne voulons pas servir d'alibi à une catastrophe cyniquement organisée au plus haut sommet de l'État et dénonçant une tentative d'instrumentalisation des associations. Le mouvement entre en résistance active. Le gouvernement devra assumer seul les conséquences humaines de sa politique irresponsable. Une loi avant toutes les lois, nous criait l'abbé Pierre, pour venir en aide à un humain sans toit, sans loi, sans soins, pardon, sans pain. Bravons toutes les lois.
tu penses que ça se sache.
Et avant de finir sur cette nouvelle, je trouve que j'avais envie de le lire parce que ça fait plaisir qu'une asso aussi grande et aussi reconnue la fasse un communiqué où il y a marqué qui rentre en guerre contre la politique là de l'État, ça fait quand même chaud au cœur.
Il faut que ça se sache.
Et donc là maintenant, je vais faire quelques nouvelles de Calaisie. Donc, en fait, ce week-end là, il y a eu encore des migrants qui ont essayé de franchir là le tunnel sous la Manche, dans le port. Il y a énormément. Je vais pas revenir dessus, mais c'est pour dire que quotidiennement, il y a de nombreux blessés. Des personnes migrantes blessées par la police parce qu'ils essayent de rentrer en force parce qu'ils ont surtout ce choix-là en Angleterre. Et alors cette montée en violence que l'on connaît à Calais se retrouve aussi dans d'autres lieux où se trouvent des campements d'exilés donc dans la région. C'est à Tetegem, le campement d'exilés qui se trouve donc sur un terrain appartenant à la communauté urbaine de Dunkerque, à proximité d'une aire d'autoroute maintenant fermée. Donc c'est des baraquements qui ont été construits pour améliorer les conditions de vie, mais ils étaient insuffisants en cas d'augmentation du nombre d'exilés. Or, comme à Calais, ce nombre a fortement augmenté depuis 2 ans, et le maire a tenté de contingenter le nombre de personnes en installant des containers aménagés pour 80 personnes et a fait détruire les installations existantes, plutôt que laisser les deux pour qu'il y ait plus de personnes. Donc les exilés surnuméraires au-delà des 80 admis dans les containers n'ont pas disparu pour autant, et donc ils et elles doivent se cacher dans des conditions d'autant plus précaires. Le 1er octobre, la police a fait une descente dans le campement de personnes vietnamiennes, qui se situe donc aux abords du village, et donc la police a arrêté 8 personnes, les autres ayant eu le temps de s'enfuir et à saccager tous les lieux, donc des rafles accompagnées de saccages.
Il faut que ça se sache.
Et à Noranfonte, on en avait déjà parlé, là c'est là où l'asso Terre d'Errance a des soucis avec la justice. Ils sont menacés de poursuite pour avoir commencé à reconstruire des abris détruits par un incident accidentel. Donc c'est pour ça, parce qu'il y a un moment ils ont eu plusieurs chefs d'inculpation, ils savaient pas forcément tout toujours pourquoi, et donc là c'est pour avoir commencé à reconstruire des abris. Et comme on a le temps et qu'on n'est pas pressé puisqu'il est 35, je peux refaire un petit rappel que je fais régulièrement là sur le délit de solidarité. Donc, il était principalement lié entre 2005 et 2012 à un article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 622.1, qui réprime l'aide à l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France, dans l'espace Schengen et dans les États signataires du protocole de Palerme. Cet article permettait de poursuivre des bénévoles ou salariés d'associations ou toute personne aidant des étrangers en situation irrégulière. Donc cet article a été modifié à la fin de l'année 2012 et la nouvelle rédaction entra en vigueur le 2 janvier 2013. Et stipule l'aide à l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France reste un délit, sauf les exceptions énumérées à l'article 622.4. Et maintenant, concrètement, ces exceptions rendent difficile de poursuivre une personne pour l'aide qu'elle apporte quand il s'agit d'aide humanitaire, donc hébergement, nourriture, soins ou de soutien juridique. Mais la politique répressive des autorités a toujours continué, malgré ce changement de loi, du moins cet apaisement de la loi. Et maintenant, elle s'appuie simplement sur d'autres moyens juridiques. Et par exemple, par rapport à l'association Terre d'Errance à Noranfonte, c'est au nom du code de l'urbanisme que risquent d'être poursuivis donc ces bénévoles pour avoir commencé à reconstruire des abris. Voilà, voilà, pour montrer l'ironie des lois en France.
Il faut que ça se sache.
Et alors, on a pas mal parlé dans les médias, dans les grands médias, c'est, vous voyez l'article, tu vois l'article Banksy, celui qui a fait plein de tags, même Radio Canu a des autocollants et
fait des affiches avec,
voilà, sur des affiches et des autocollants et donc il va installer son parc d'attractions Dismaland à Calais, qui est Dismaland, c'est une parodie de Disneyland. Ce n'est pas si clair si c'est le parc d'attractions, et donc Banksy a annoncé que une fois la fin du parc d'attractions, il allait donner le matériel après son démontage qui servirait à construire des abris pour les personnes migrantes. Sauf que pour les personnes engagées militantes à Calais, c'est pas si évident de prendre ça comme une bonne nouvelle, le fait que Banksy vienne avec, même si c'est une parodie, ça reste un parc d'attractions, puisque la création d'un parc d'attractions à Calais est un des serpents de mer de la mairie de Calais, et puisque ça fait un moment qu'ils veulent en mettre un en place, que c'est censé résoudre les problèmes d'emploi à Calais, et qui voudrait l'appeler Spyland ou Heroicland. Voilà, et un article de fond qui avait été fait par Marianne il y a quelques temps montre que ce projet de parc d'attractions emmène la mairie de Calais dans des parages de l'extrême droite néo-nazie calaisienne. Voilà, voilà. Et donc, bref, tout ça pour dire que Banksy fait ce truc-là, et que c'est pas si évident, parce que ça fait une sorte aussi d'ouverture pour dire « Eh, regardez, c'est pas assez... » Même si c'est une parodie, c'est bien qu'il y ait un parc d'attraction, et comme c'est particulièrement tendu à Calais, c'est pas sûr que ça aide pas du coup le mauvais côté.
Il faut que ça se sache.
On a terminé.
Voilà, ce Canu Info se termine. Vous pourrez retrouver, je pense, un agenda fait par Idées Noires à 20h.
Oui, tout
on
à fait.
Pas préparé.
Et aussi, on ne sait pas si vous avez déjà quelque chose sur votre agenda pour le lundi 12 octobre, c'est-à-dire lundi prochain, mais écoutez donc ça.
On vient d'apprendre à l'instant qu'un homme s'est lancé pour défi de relier la Saône-au-Rhône en solitaire, à pied et sans assistance au niveau de Perrache. On rappelle que le record du monde est de 1h03, un parcours en milieu hostile dans l'enchevêtrement des échangeurs. Il lui faudra traverser le labyrinthe de la gare routière, enjamber la 6 puis la 7, en évitant de se faire remarquer par les permanents du local d'extrême droite. Et tout cela bien sûr sans ravitaillement choucroute et sans passer par la case prison. Une aventure humaine à suivre lundi 12 octobre dès 20h sur la scène du Périscope.
La méga combi de Radio Canu vous invite à l'enregistrement d'une émission en public et à Perrache le lundi 12 octobre dès 20h au Périscope. Alors le Périscope, c'est rue de Landine, derrière les anciennes prisons, à Perrache.
Oh non, le sol tremble là, le sol tremble.
Les fondations ont dû mal réagir, et comme elles sont fichées dans une zone marécageuse entre deux fleuves.
La méga combi, c'est des sketchs, des reportages, le journal de Cobry, tout ça joué en direct, et il y aura même une impro sonore du frigo.
Eh, le frigo, t'es chaud pour une impro?
Bref, viens faire le public, nous on fait la radio, et tout se passera bien.
Oh merde, le pont est mon bord.
La méga combi en public et à Perrache, lundi 12 octobre, 20h, Périscope. Et c'est prix libre en soutien à Radio Canu. Ça va, toi?
Et alors, je voulais en profiter pour vous diffuser le jingle, mais on l'a perdu. Mais il est sur les bandes continues, donc c'est pour le 16, 17, 18 octobre. Donc le 17 octobre, il y a la commémoration là, du 17 octobre 61, des personnes qui avaient été balancées dans la Seine. Et donc il y a une soirée à l'atelier de Canular le 16 octobre. Le vendredi 16 octobre et le 17 octobre, il y a une marche pour la dignité. Non, pardon, ça c'est à Paris le 31 octobre et la marche du 17, donc c'est contre les violences policières et contre le racisme d'État. Et donc, vous entendrez prochainement ce jingle qui annonce ces événements.